Artisans de paix. Artisans de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Comme chaque semaine, l'émission Artisans de paix interroge une actualité. Cette semaine, le glyphosate. Oui, le glyphosate, cet herbicide puissant inventé par Monsanto et répandu chaque année par milliers de tonnes, 700 000 tonnes par an. Le glyphosate est en débat, encore une fois. La Commission européenne propose de renouveler l'autorisation du glyphosate pour une durée de 10 ans jusqu'en 2033. Cette proposition s'appuie sur des rapports favorables, qui estiment que le niveau de risque est faible. Mais les conclusions scientifiques de nombreux laboratoires donnent des résultats divergents. La réglementation contre la science, titré le 25 septembre le journal Le Monde. Le désaccord entre les agences réglementaires de l'Union européenne et les institutions scientifiques sur la toxicité du glyphosate est total. Les uns s'appuient quasiment exclusivement sur les tests réglementaires fournis par les industriels eux-mêmes, alors que les autres, les organismes scientifiques comme l'INSERM, prennent en compte l'ensemble des études scientifiques menées dans le monde. Mais est-ce bien un sujet en relation avec la non-violence et la paix ? Oui, car il s'agit de questions vitales. La santé des populations, la pollution de l'air, la toxicité des aliments, la gestion des sols, la qualité de l'air, l'effondrement de la biodiversité et bien sûr la production des aliments et donc la question de la sécurité alimentaire. On a deux approches de ces questions, a priori légitimes et respectables. Puis-je participer au débat ? Dois-je intervenir et comment ? Comment faire entendre ma conviction scientifique face à des agences réglementaires soupçonnées d'être sous l'influence des entreprises chimiques qui tirent profit de ces produits ? Comment gérer cette opposition ? Peut-on instaurer un dialogue ? Peut-on s'opposer à ces épandages chimiques et donc entrer en conflit avec des exploitants agricoles qui sont dans le droit ? Comment alerter dans le respect des personnes et des biens ? Si on veut exprimer une conviction, présenter des arguments, est-il possible d'inventer une démarche active et non violente ? Est-ce que le droit d'avoir accès à une nourriture saine, à une eau propre, à une aire de qualité est un droit supérieur au droit réglementaire décidé par des instances étatiques ? La réflexion est ouverte. Pour moi, le glyphosate évoque l'agent orange employé par l'armée des États-Unis lors de la guerre du Vietnam entre 1961 et 1971, répandu par avion pour détruire la jungle où se cachaient les combattants vietnamiens, même si ce n'est pas tout à fait la même molécule. L'agent orange a été mis au point par la même entreprise Monsanto. Est-ce que l'on peut tout faire pour augmenter ses profits sans réfléchir à la protection des vivants ? Et à la habitabilité de la planète Terre. Aujourd'hui, un invité, en chair et en os, Alain Refallo. Alain Refallo, bonjour.
Bonjour Yves.
Merci d'être venu. Alors, Alain Refallo est professeur des écoles. Vous êtes né à Toulouse et vous vous êtes intéressé très tôt à la non-violence dans les années lycée. Comment se fait-il comment on s'intéresse à la non-violence dans les années lycée ? Comment ça se passe ?
Effectivement, ça se passe au début des années 80. Et dans ces années-là, j'ai été amené à prendre conscience de l'injustice qui consistait à ce que les pays riches gaspillent des milliards et des milliards pour la course aux armements. Et d'un autre côté, nous parlions du tiers-monde à ce moment-là, des pays sous-développés qui souffraient de la misère, du mal-développement. Et cette comparaison, ce paradoxe me semblait véritablement quelque chose de scandaleux et ma prise de conscience, elle a démarré là. Et dans ces années-là, à peu près à la même période, j'ai rencontré des personnes qui, sur Colomiers, sur Toulouse, étaient déjà engagées dans la voie du combat pour la paix et du combat pour la non-violence.
Il y a une rencontre particulièrement qui a été marquante.
Oui, il y a plusieurs rencontres. Il y a la rencontre, par exemple, de Evelyne Coépé, qui était, si bien nommée d'ailleurs, Coépé Evelyne, qui était la responsable d'une association qui s'appelait l'Association des Amis du Livre de la Paix de Bernard Benson. C'était un livre qui avait une vocation d'éducation pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour leur faire prendre conscience des dangers, notamment de la course aux armements. Et donc, une association avait été créée à Colomiers, mais aussi ailleurs, pour promouvoir ce livre. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes sur Toulouse qui étaient engagées dans un mouvement qui s'appelait le MAN, le Mouvement pour une alternative non violente.
Et oui, ce mouvement dans lequel Jean-Marie Muller s'est impliqué. Enfin,
oui, il est même un des fondateurs du MAN. Il a été longtemps l'un des porte-paroles. Et à Toulouse, tous les mois, une fois par mois, rue Alsace-Lorraine, c'est pas très loin d'ici, eh bien, il y avait une action qui consistait en une heure de silence pour la paix. Et donc, des citoyens se retrouvaient une heure en silence avec des pancartes, des banderoles, pour dénoncer la course aux armements, pour demander à ce que les grandes puissances cessent cette course folle qui menace l'existence même de la planète. Hein. On était au début des années 80, il y avait cet antagonisme entre les États-Unis et l'URSS.
Oui, c'était en plein pendant la guerre froide.
Pendant la guerre froide, avec les missiles Pershing d'un côté, les missiles SS-20 de l'autre. Et donc, il y avait tout un mouvement en Europe de contestation, un mouvement dit pacifiste, entre guillemets, même si je n'aime pas trop cette expression, qui émergeait en France plus timidement. Et le MAN faisait partie de ces associations qui travaillaient à la recherche d'alternatives à la guerre, d'alternatives à la violence. Et c'est comme cela que j'ai petit à petit découvert la non-violence.
Et c'est peut-être pour cela que vous êtes devenu objecteur de conscience.
Effectivement, très rapidement, j'avais donc 17-18 ans, le service militaire était encore obligatoire. Pour moi, il était clair que je ne pouvais pas en conscience participer à une institution qui apprend finalement à tuer d'autres personnes. Et donc, j'ai fait acte d'objection de conscience et pour cela, j'ai effectué un service civil de 2 ans. Donc c'était la durée double à ce moment-là. Hein. Le service militaire durait 1 an, le service civil des objecteurs de conscience durait 2 ans. Mais on pouvait choisir son association, son affectation. Et donc j'ai effectué mon service civil dans une association en région parisienne qui travaillait justement sur les questions de désarmement et de paix. C'était un centre de documentation et de formation. Et justement, je venais de faire une formation de documentaliste. Donc je joignais l'utile à l'agréable dans ce service civil.
Revenons sur ce choix de devenir objecteur de conscience. C'était facile, la famille acceptait, l'environnement, comment
alors,
on faisait.
Alors effectivement, c'est, dans la famille, c'était pas forcément quelque chose de courant. Il a fallu expliquer, ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, j'ai poursuivi ce chemin. J'ai rencontré d'autres objecteurs de conscience, évidemment. Et voilà, j'ai été conforté dans ma démarche. Pour moi, ça a été véritablement un acte essentiel qui m'a orienté vers la voie de la non-violence, d'autant plus qu'en même temps qu'on critiquait la course aux armements, le militarisme, les dépenses militaires, on n'était pas uniquement sur de la contestation, on essayait de réfléchir et de rechercher ce que l'on appelle des alternatives à la défense nationale et notamment des alternatives non violentes. Et c'est un travail qui m'a toujours passionné et qui fait que, voilà, depuis pas mal d'années, je publie beaucoup sur ces questions-là.
Voilà, donc on reviendra sur ces publications. En particulier, il y a un livre qui sort cette année ou cette semaine même peut-être.
Il est sorti, il est sorti au mois de mars, hein, le paradigme de la non-violence, voilà, qui est une recherche assez poussée sur à la fois l'idée et le concept de non-violence dans l'histoire, mais je crois que nous en reparlerons
voilà,
un petit peu plus tard.
On prendra un moment pour en parler très, très spécifiquement. Peut-être pour terminer cette première présentation de cet engagement et de cette force sur la non-violence, il y a une création tout à fait originale qui est la création du centre de ressources sur la non-violence à Colomiers. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de villes, beaucoup de régions qui ont un centre de ressources dédié à la non-violence.
Effectivement, il y a 20 ans que des citoyens se sont mobilisés sur Colomiers, l'agglomération toulousaine. C'était au moment de la guerre en Irak. En fait, c'était un petit peu avant le début de la guerre en Irak. Il y avait un mouvement mondial extrêmement important d'opposition à cette guerre. Et à Colomiers, on a lancé une action sous la forme d'une heure de silence pour la paix. Et des citoyens columérins, chaque samedi, se retrouvaient de 11h à midi dans l'allée passante et commerçante de la ville pour témoigner de leur refus de cet engrenage de la guerre au Moyen-Orient. Et cette action a marqué les esprits, a mobilisé, a marqué les esprits. Et une fois que la mobilisation s'est un petit peu ralentie, un peu partout, des citoyens ont voulu maintenir le contact. Et c'est ainsi qu'un réseau s'est créé qui a, à un moment donné, décidé de créer un lieu de ressources, de réflexion, de formation sur la non-violence, d'où le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées qui s'est installé à Colomiers dans des locaux qui nous ont été prêtés par le bailleur social de la ville, Colomiers Habitat, qui s'appelle Altéal aujourd'hui, avec aussi le soutien de la mairie de Colomiers. Et donc depuis 20 ans, voilà, nous existons, nous organisons beaucoup de formations et nous avons participé à des initiatives très importantes, notamment le festival Camino pour la non-violence en 2006 et en 2009.
Alors, on y reviendra. Et peut-être juste ce centre de ressources est impliqué sur cette fameuse journée internationale de la non-violence décrétée par l'ONU et qui a lieu le 2 octobre. C'est donc le centre est impliqué.
Effectivement, depuis 2007, l'ONU a déclaré le 2 octobre, qui est le jour de la naissance de Gandhi, par ailleurs, ce n'est pas tout à fait un hasard, journée internationale de la non-violence. C'est une avancée considérable dans la prise en compte de l'intérêt de la non-violence à l'échelle internationale. Et chaque année, cette journée donne lieu à des événements un peu partout dans le monde. Et nous, à Colomiers, effectivement, nous essayons de faire vivre un événement important autour de la non-violence autour de cette date.
Merci Alain Refalo. On va donc se voir la semaine prochaine et on pourra approfondir votre réflexion sur la non-violence.
Merci.